Le sommet du pompon, c'est évidemment samedi et dimanche. Hein. C'est là où on prépare le terrain. Hein. La bombe, c'est pour le sabbat, normal. Mais là, pour l'instant, on ne fait que dire des lieux communs. Hein. Mais les lieux communs, c'est pas mauvais. Ça nous remet dans la bonne direction. Et une fois qu'on est dans la bonne direction, on prend le télescope. C'est ça. Alors, je dis, c'est une tradition, il faut s'arrêter. L'Eucharistie, les sacrements. Comment vivrons-nous des sacrements dans l'Église des derniers temps, dans le sixième jour de l'Apocalypse, dans la sixième trompette, dans le sixième sceau, dans la sixième Église, dans la sixième destruction du mal, dans la sixième victoire de l'agneau de Dieu sur tous les temps, tous les lieux. Comment est-ce qu'on vit l'Eucharistie? Comment est-ce qu'on vit des sacrements? Alors ici, petit catéchisme sur les sacrements. Vous savez, il y a sept sacrements. Le baptême, la confirmation, le sacrement du sacerdoce, du prêtre, de l'ordre, le sacrement de pénitence, du pardon, le sacrement de l'Eucharistie, sanctissime sacrement. Le sacrement du mariage et le sacrement extrême. Sacrement extrême. Tous les sacrements sont des onctions. Et il y a l'onction extrême. Chacun de ces sept sacrements est traditionnellement appelé par l'Église de sept noms différents. Ça fait 49 noms. Vous saviez ça? Par exemple, pour le sacrement de l'Eucharistie, le sacrement de l'Eucharistie est appelé messe. Sacrifice. Saint sacrifice. Eucharistie. Communion. Je vais lire le sacrement, ben, je vais communier, ou bien je vais à la messe, ou je vais participer au Saint-Sacrifice, ou bien, etc. Synaxe, dans les premiers temps de l'Église, on l'appelait synaxe, c'est-à-dire l'axe du rassemblement substantiel de tout, synaxis, la synaxe, la messe. Les sept, vous avez la synaxe, le mysterium fidei, le mystère de la foi. Deuxièmement, troisièmement, la messe. Quatrièmement, le viatique. Ah, c'est ça que j'avais pas dit. Le viatique, le mémorial. Viatique, mémorial, c'est la même chose. Le tikaron, le mémorial, le viatique. Le saint sacrifice. Quand on parle du Saint-Sacrifice, c'est hostie. C'est l'hostie. Saint-Sacrifice. La communion, c'est un repas. L'Eucharistie, c'est l'action de grâce suprême. La synaxe, parce que c'est le sacrement du rassemblement. Le mysterium fidei, parce que c'est le sacrement sanctissime. Sacrement des sacrements. La messe, parce que c'est l'envoi du Christ dans notre cœur, et à partir de nous-mêmes, le Christ qui continue sa mission à travers nous dans le monde, c'est la mission et c'est l'envoi. La messe, c'est l'envoi. C'est un viatique, parce que dans le viatique, on fait mémoire de Dieu, et Dieu est présent. C'est l'hostie parce que c'est le sacrement du Saint-Sacrifice, c'est la communion parce que c'est le sacrement du repas, des noces, de l'agneau, et enfin c'est une eucharistie parce que c'est le sacrement de l'action de grâce substantielle. Alors, pour les sacrements, c'est comme ça. Il y a sept noms. Alors, je peux m'amuser à vous dire les sept noms du sacrement de confession, par exemple. Ça, c'est beau aussi. Hein? C'est le sacrement de réconciliation. C'est le sacrement du pardon. C'est le sacrement de pénitence. C'est le sacrement du salut. C'est le sacrement de la joie, c'est le sacrement de la lumière, c'est le sacrement de l'absolution. C'est vrai? Il y en a certains qui disent, bon voilà, je vais recevoir le sacrement de réconciliation. Je vais recevoir ça, ben non, moi pas du tout, moi c'est le sacrement de confession. Le sacrement de pénitence que je reçois. Oh non, ça va pas, ça va pas. Moi je reçois le sacrement. Les sept sont vrais. Les sept sont vrais. On reçoit les sept, vous voyez. En un. Et si je privilégie un plutôt que l'autre, c'est que j'ai pas compris grand chose. Vous voyez. Et c'est une tradition qu'il y a différents noms à tous ces sacrements. C'est normal parce que sacrement, chaque sacrement vient libérer, sanctifier, diviniser et glorifier les sept dimensions de notre humanité blessée. Alors, c'est pour ça qu'il a sept jaillissements et à chaque fois sept noms. N'est-ce pas ? C'est à cause de ça. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que il y a effectivement quelque chose qui prend tout. Les sacrements prennent en nous tout. À chaque fois, sous un rapport différent, chaque sacrement a sa manière de nous reprendre, nous, tout entier, quoi. C'est sûr. Dans le baptême aussi, il n'y a pas qu'une seule chose. Dans le baptême, vous êtes lavé du péché originel, hein, vous recevez la grâce sanctifiante, vous rentrez dans le corps mystique de l'Église, votre corps est englouti, incorporé corporellement dans le corps mort et ressuscité du Christ. Vous êtes pardonné de tous vos péchés personnels et de toutes les peines du péché, toutes les influences du péché antérieur. J'en oublie évidemment. Vous recevez le caractère et la puissance des actes de vie surnaturels, de foi, d'espérance et de charité. Quelqu'un qui n'a pas reçu le baptême ne peut pas faire réaliser. Voilà. Et vous avez la présence de la très sainte Trinité dans votre âme. C'est les sept effets du sacrement de baptême que seul le sacrement de baptême donne. Et à chaque fois, c'est sept, vous savez. Il faut s'habituer à ça. Donc, pour les sept sacrements, il faut arriver à repérer ça. Les sept effets de chacun des sacrements. Ça fait 49 en tout, c'est joli ça. 47 plus 2. Alors, c'est bien. Donc ça arrive. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est pas pour vous embêter, c'est parce que il y a une progression aussi. Le sacrement, il nous fait. Il nous donne quelque chose d'extraordinaire, et puis quelque chose la fois suivante ou d'encore plus extraordinaire, et dans l'Église c'est pareil, le sacrement s'approfondit, s'intensifie, se déploie, s'épanouit. dans sa fécondité immense, suprême, surnaturelle, et incarnée, et universelle, et catholique. Voyez. Et c'est pour ça que, à un moment donné, le sacrement opère sa transformation de débordement en débordement. Eh bien, il y a les sept débordements de chaque sacrement dans notre âme. Chaque sacrement va déborder de sept manières, quoi, progressivement. Et le sixième débordement caractérise ce qui doit être le centre de gravité de la sixième Église. Donc il faut repérer, si vous voulez, le sixième aspect du sacrement dans tous les sacrements. Hein, c'est une petite clé. Là, je vous donne une clé. C'est une clé que je vous donne. Alors, si vous me dites, mais moi, je ne savais même pas qu'il y avait sept débordements dans chaque sacrement. Oh, bah là, écoutez, on peut vous acheter une Bible si vous voulez, on se cotisera. Sinon, il y a des cassettes. Bon, c'est. Par exemple, Brigitte, elle a les cassettes sur la confession. C'est tout ça par cœur. Et on espère qu'on peut le mettre par écrit un jour, je sais pas, mais ça dépend de beaucoup de gens. Ça. Le démon ne le veut pas. Hein. Ça, c'est évident. Le démon ne le veut pas. Mais le bon Dieu, je sais pas, je crois qu'il préfère. Moi je crois. Et lorsque que je vous dis simplement ce que dit saint Thomas d'Aquin sur les sacrements, c'est quoi ces sept débordements successifs? Dans un sacrement, dans tous les sacrements, il y a quelque chose qui manifeste les fécondités du Christ dans l'incarnation. Quand Christ est incarné, qu'il est né à Noël. Par exemple, dans l'Eucharistie, il y a les mêmes grâces que Jésus a données en naissant à Marie et à Joseph, qui nous sont données à nous aussi. Deuxièmement, les grâces qui ont été données par le Christ dans sa vie publique quand il a été tenté par le diable. Troisièmement, il y a les grâces que le Christ a données au moment de la dernière semaine, à partir du dimanche du rameau. Quatrièmement, il y a les grâces que Marie a reçues, et puis ceux qui avaient la foi, au moment de Gethsémani, donc le dernier jour, le jour de la croix, où il était crucifié. Cinquièmement, il y a les grâces qui sont données par Jésus quand il est mort, et que le cœur a été blessé, et qu'il est descendu aux enfers. Sixièmement, il y a les grâces que Jésus a données à Marie quand il est ressuscité. Septièmement, il y a les grâces que Jésus a données à Marie et à l'Église, et aux croyants, lorsqu'il est, avec son corps, son âme, qu'il m'a monté à la droite du Père et qui a donné l'Esprit Saint. Et dans tous les sacrements, il y a ces sept. Alors, vous allez me dire, bon d'accord, c'est évident. J'y avais pas pensé, mais maintenant que vous le dites, c'est évident. Vous allez me dire, mais où est-ce que je repère ça et comment est-ce que je capte? Ah, c'est différent, hein? Comment est-ce que je le capte? Alors ça, bon, faudrait faire toute une retraite sur l'Eucharistie, par exemple. Elle existe, d'ailleurs, la dite retraite. Hein? C'est sûr. Alors, quelles sont ces étapes? D'ailleurs, vous voyez bien, dans l'Eucharistie, il y a cette étape. La convocation, tout le monde se rassemble. La liturgie de la parole de Dieu qui correspond à la vie publique. L'offertoire qui correspond à la dernière semaine et au dimanche des rameaux. Le canon qui correspond à la croix. La consécration qui correspond à la blessure du cœur. La communion qui correspond à Pâques. Et l'action de grâce qui correspond à la Pentecôte. Dans la confession, c'est pareil. Il y a les sept étapes. Il faut respecter les sept étapes de la confession. Alors vous allez me dire, bon, mais qu'est-ce qui est commun à tous les sept sacrements ? Ben, ce qui est commun à tous les sept sacrements, c'est que lorsqu'il commence, le Christ est présent comme source. Saint Thomas d'Aquin appelle ça la res tantum. Il n'y a que la présence de Jésus seulement. Tantum, ça veut dire seulement. C'est-à-dire, il n'y a pas encore le sacrement, quoi. Mais il y a quand même Jésus comme source de sacrement qui est là parce qu'on y vient. Et donc Jésus, sacrement, est déjà là. Il y a le signum, il y a le signe. Tous les sacrements sont des signes sensibles et efficaces. Alors c'est pour ça que ça commence par le signe de la croix, ordinairement. Tous les sacrements. Et on rentre dans le signe de la croix, d'une manière différente à chaque fois. Puis, dans tous les sacrements, il y a l'association du signe visible et de la présence du Christ. Par exemple, dans l'Eucharistie, c'est à l'offertoire. Saint Thomas d'Aquin appelle ça le « res et signum ». Res, ça veut dire la présence du Christ, et le signum est le signe sensible. C'est quoi la res et signum de l'Eucharistie? C'est le pain et le vin. C'est du pain et du vin. Qu'est-ce que c'est que la matière? J'en appelle ça la matière du sacrement. Dans la confession, par exemple, la matière du sacrement, c'est l'expression sensible de la contrition devant le prêtre. C'est l'expression sensible de la contrition devant le prêtre qui est la matière du sacrement de pénitence. S'il n'y a pas une contrition sensible, eh bien, il n'y a pas d'absolution. S'il n'y a pas de pain et de vin à la messe, il n'y a pas de consécration. Ensuite, il y a le sacramentum tantum, le sacrement seulement. Tantum, ça veut dire seulement en latin. Dans tous les sacrements, c'est ça. Hein. Donc, vous voyez, on avance comme ça. C'est-à-dire, il va y avoir, ça y est, on appelle ça l'épiclèse dans l'Eucharistie. Ça y est, sacrement, fait que c'est dans le canon. Et quand le sacrement, ça y est, on y est, on est déjà à genoux, c'est la présence réelle, mais elle n'a pas opéré son explosion, la bombe est là, tout y est, ils sont tous rassemblés, quoi, mais ouf. Et on arrive à la sacramentum et res, qui est le 1, 2, 3, 4, 5e aspect, et qui établit la présence réelle et véritable. Dans l'Eucharistie, vous voyez bien que dans le canon, bah, voilà, ça y est, Jésus est en train de... Le prêtre est tout entier avec Jésus. Le pain et le vin dans les mains. Ça y est, il est livré. Le Christ est livré dans l'hostie, mais il n'y a pas eu transsubstantiation. Vous voyez, les protestants s'arrêtent là. Ils vont jusque-là, les protestants, quand même, mais ils s'arrêtent là. Et avec la transsubstantiation, il y a le sacramentum et res. Il y a la transsubstantiation et la présence réelle, véritable du corps du Christ. Ça correspond à l'absolution dans la confession, présence réelle et véritable de tout le sang du Christ, pas une seule goutte ne manquant, qui jaillit du fond de l'âme du pécheur pour le laver totalement de toute faute. Puis, il y a là res et sacramentum, vous voyez. Sixième, c'est sacramentum et res. C'est le sacrement qui fait jaillir la présence réelle. Et puis après, on communie, c'est la présence réelle qui nous fait de nous un sacrement. Ah non, j'en suis à la septième. Sixième. Donc cinquième, sacramentum et res. Bon, je recommence. Premier, restantum. Deuxième, signum. Troisième, res et signum. Quatrième, sacramentum, tantum. Sacrement seulement. Cinquième, sacramentum et res. C'est la transsubstantiation pour l'Eucharistie. C'est l'absolution pour la confession. C'est, sacrement est là. Et donne en même temps, simultanément, la présence réelle, la reste. Jésus naît réellement du sacrement. Je le reçois dans la communion sixièmement, et je deviens le sacrement. Reste et sacrament. Et après, le sacrement disparaît, c'est la digestion. Action de grâce, il n'y a plus de sacrement, il n'y a plus que la res tantum. Il n'y a plus que la réalité seulement, sans le sacrement. C'est le fruit. C'est le septième. La sixième, res et sacramentum. Voilà. Mais oui, c'est plus la même chose. Sacramentum, je fais la transsubstantiation. Donc le sacrement est là et la présence réelle. Je communie. Donc j'ai la présence réelle et je deviens sacrement. C'est pas pareil. Et puis, le sacrement, la présence réelle disparaît. Et puis, il n'y a plus que la présence réelle, mais dans son fruit final épanoui, sans limite, ce que je vous ai dit. Ce que le prêtre vous a dit au sermon aujourd'hui, plus ou moins, tu vois. Donc voyez bien, il y a sept toujours grands épanouissements de la présence réelle de chaque sacrement dans tous les sacrements. Et donc il serait très, 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 très important et très nécessaire et très utile et très fécond et très lumineux et très libérant, vous voyez, les sept aspects, et très glorieux pour nous, et pour Dieu et pour l'Église, qu'on puisse voir ce sixième aspect du res et sacramentum pour chacun des sacrements. Parce que dans l'Église de la parousie, c'est là où l'Esprit-Saint veut qu'on mette l'accent. On va mettre l'accent, la pédagogie de l'Église aussi doit mettre l'accent là-dessus. Le centre de gravité de l'enseignement de l'Église doit mettre l'accent là-dessus, sur la sixième colonne. Hein, on va écrire un bouquin extraordinaire là-dessus, la sixième colonne de l'Église. J'en ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Sixième Église, Philadelphie, j'en ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. La sixième colonne. Ah, ça me plaît, moi, ça. Et c'est vrai que si vous voulez, dans l'Église, au fond, triomphante, si je puis dire, l'Église où la liturgie triomphe, est manifestée, etc. C'est normal que ce soit le cinquième aspect qui domine, qui soit sur lequel on mette l'accent. C'est-à-dire la transsubstantiation. La consécration. Le mystère. Le saint sacrifice. Tandis que dans l'église de la parousie et des profondeurs de l'âme qui le reçoit, c'est la croix glorieuse. C'est reste sacramento. Que cette réalité opère quand j'y communie. C'est pour ça que Marthe disait que l'oraison prime sur la messe. Parce que l'oraison, c'est res et sacramentum. Et la messe, c'est sacramentum et res. Mais on ne peut pas séparer ce que Dieu unit. Il ne faut pas dire, bon, du coup, je ne vais plus à la messe. Ça n'a rien à voir. Les deux sont indissolublement liés. Mais l'accent est mis sur la reste, sur la communion. Sur la communion. Alors, il y a, à ce moment-là, effectivement, il y a à ce moment-là quelque chose de très, 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 très intéressant à regarder. Et je voudrais vous dire ici, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui se trouve, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se réalise dans ce sixième moment de la messe lorsque nous communions. Lorsque nous communions, nous recevons le corps du Christ, nous recevons le sacrement de Jésus hostie, sa présence réelle. C'est quoi la présence réelle? C'est le corps ressuscité du Seigneur que nous recevons substantiellement. Hein? Ça, je crois que pour tout le monde est d'accord là-dessus quand même. Mais à ce moment-là, quand je le reçois, il faut absolument que je saisisse de l'intérieur cette présence réelle, de l'intérieur. Et que je saisisse cette grappe de raisin formidable, et puis que je la presse pour qu'elle donne son jus, qu'elle donne son fruit. Parce que prendre la moisson, qui est la grappe, ça y est, elle y est, dans notre assiette, c'est très bien. Mais si je le laisse là, il faut vraiment que je la prenne et que je presse pour donner son jus. Ça, c'est pendant la communion. Et ce qui compte, ce que dit saint Thomas d'Aquin, ce qui compte dans l'Eucharistie, c'est pas tellement de communier, c'est de recevoir le jus, le fruit de la présence réelle. Je prie. Je lui fais donner son... de manière à recevoir la réalité elle-même. Et recevant la réalité elle-même dans mon corps à moi, c'est mon corps qui devient le sacrement de l'Eucharistie. Alors, qu'est-ce qui va se réaliser dans cette communion? Eh bien, dans cette communion, je vous l'ai dit plus ou moins dans le serment, il va se réaliser plusieurs choses. Bien sûr, il va y avoir toute une spiritualité qui va se... toute une vivante illumination de notre cœur, de notre corps, de notre âme. Il va falloir qu'on soit très attentif à ce qui se passe. Très attentif. Extrêmement attentif. Comme l'on dit dans la liturgie orthodoxe. Soyons attentifs. Amen. Encore une fois. Soyons attentifs. Vous voyez ? Alors, je vous donne quand même ce qui structure cette sixième demeure du sacrement dans le passage de la reste au fruit. C'est le titre de ma conférence. D'aujourd'hui, de maintenant. Sixième demeure des sacrements dans le
dans le passage de la fête, c'est la réalité sacramentelle au fruit. C'est moi hein, qui fais passer le sacrement de la fête au fruit, c'est pas le Seigneur. C'est ma foi, mon espérance et ma charité hein, qui font passer le sacrement de la fête au fruit. Si je ne fais pas les actes correspondants, ça fait présence réelle et ça ne donne pas son fruit. Donc il faut faire des actes précis. Alors, il faut toujours s'appuyer sur l'écriture. Là où, dans l'évangile, c'est le plus clair, si je puis dire, c'est dans le chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean. Cette actuation a cinq grands aspects. Et je vous mets le premier aspect. Premier aspect, chapitre 6, versets 53 à 58. Chapitre 6, versets 53 à 58. Je reçois la présence réelle du Christ ressuscité, et le Christ ressuscité qui est en moi, il demeure dans le Père. Je reçois le Christ ressuscité, et le Christ ressuscité en moi, figurez-vous, si vous ne le saviez pas, il demeure dans le Père. La demeurance dans le sein du Père. Et donc je suis attentif que désormais, en train de communier, je suis dans le sein du Père. À travers le corps ressuscité du Christ. Je suis dans le sein de Dieu le Père. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressuscite au jour dernier. Car ma chair est vraiment une nourriture, mon sang vraiment une boisson. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. De même qu'envoyé par le Père qui est vivant, moi je vis dia patri dans le Père. Très attentif à ça. Parce que dès que je ressuscite dans la communion avec le Christ, je peux dire en toute vérité, je suis le Fils de Dieu. Par le Christ, Dieu fait de nous, au moment de la communion, le Fils de Dieu, dans le sein du Père. Alors, je peux jouir, il y a cinq aspects, je suis dans le premier aspect, alors je peux jouir, là, du Saint-Esprit, dans le Père, avec le Fils. Vous me direz, mais comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait? Et je pense, je le pense avec ces mots-là, qui sont des mots de la révélation, sortis directement de la bouche du Christ. Je lis ces mots-là, et du coup, c'est ce qui se passe. Oui, je suis en train de communier. Si vous dites que je suis en train de communier, voilà. J'apprends par cœur, là, chapitre, verset 53-58, et je dis ça. au moment où je communie, avec une intensité intérieure. Je mange ta chair, Seigneur, je bois ton sang, j'ai la vie éternelle. Tu me ressuscites maintenant, à l'extrême. Hein. Car ta chair est vraiment une nourriture, ton sang en ce moment, vraiment boisson, ma seule nourriture. Je mange ta chair, je bois ton sang, tu demeures en moi, et moi en toi, de même qu'envoyé par le Père qui est vivant ici-là. Eh bien, je vis dans le Père, je suis le Fils de Dieu. Et du coup, quand le Fils de Dieu est dans le Père, cette rencontre produit l'Esprit-là. Et donc, je jouis du Saint-Esprit dans la demeure, en demeurant dans le Père, puisque avec toi, je suis le Fils de Dieu, dans mon corps, et dans ton corps ressuscité en un seul corps. Je le dis. Et du coup, ça, je le vis, je le sens. Si je ne le dis pas, je ne peux pas sentir. Si je ne le dis pas, je ne peux pas le sentir. Il faut d'abord la foi. Et la foi, c'est avec les paroles de la révélation qui s'expriment de toutes mes forces. De toutes les forces vives de ma foi. C'est avec des actes de foi que je transforme le sacrement. Je passe de la rêve. Recevoir la communion sans passer de la res au fruit, c'est assez triste. Et je tiens à vous dire que après la parousie, c'est-à-dire dans quelques semaines, ce sera un péché mortel. Ce sera impardonnable. Donc il faut s'entraîner. Premier effet de la communion. Voilà la première chose. Deuxième effet, il y en a cinq. Et vous voyez, pour les sept sacrements, il faut faire la même chose. C'est la sixième colonne du sacrement, ça. C'est super. Je suis intéressant. Pour que je suis content. Le deuxième effet, chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean, verset 47 à 52. Attention. Là, ça c'est beau. Verset 47 à 52. En vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé de la manne au désert et sont morts. Ce pain qui descend du ciel pour qu'on le mange et ne meure pas. Ce pain est celui qui descend du ciel pour qu'on le mange et qu'on ne meure pas. Je suis le pain vivant, descendu du ciel, qui mange ce pain. Vie à jamais. Et ce pain que moi je donne, c'est ma chair pour la vie du monde. Voyez ? Donc, premièrement, je demeure dans le sein du Père. Deuxièmement, le pain du ciel. C'est le pain du ciel. Je me nourris de ce qui nourrit au ciel. Père, lui, se nourrit de son Fils, mais le dévore. Et du coup, quand il le dévore, vous savez, quand vous prenez, vous êtes en train de mourir, mais, ni eau, ni rien du tout, vous mourrez de faim, et puis quelqu'un vous met une petite goutte d'eau au moment où vous agonisez, et puis vous revivez. La nourriture nous fait, nous donne, nous redonne vie. Nourriture nous redonne vie. Et cette vie, quand le Père se nourrit du Christ, de son Fils, c'est son pain. Et du coup, il y a la vie. Dieu est en train de vivre. C'est ça, la vie éternelle. Dieu est en train de vivre. Donc ici, ce deuxième aspect, c'est je me nourris de quelque chose qui fait que Dieu est en train de vivre. Il en revit. Vous voyez, le pain du ciel donne la vie éternelle. C'est Dieu le Père qui revit grâce à ma communion. Si je puis dire. Et il faut le dire. Qui a créé tous ces hommes-là, tous ces hommes qui ne communient pas, tous ces hommes qui ne communient pas, il les a créés, il attend de recevoir son Fils à travers le corps de tous ces hommes qui ne communient pas. Moi, je communie et je donne cette nourriture à Dieu le Père dans tous les corps de tous les hommes qui ne communient pas. Et du coup, ça y est, Dieu peut revivre dans le corps de tous les hommes qui ne communient pas. C'est très important. Je suis. Alors, quand je vis ça, je peux dire en toute vérité, avec le Christ, je suis le bon pain qui donne la vie éternelle. C'est trop mystique ça. Si vous trouvez ça trop mystique, alors à ce moment-là, vous pouvez le vivre par la médiation de la réalité corporelle qui correspond. Vous recevez le corps ressuscité du Seigneur, le corps ressuscité du Seigneur. Vous donne toute sa vie, et il a donné toute sa vie, c'est-à-dire toute sa grâce divine, toute sa grâce incarné, toute sa grâce créée, toute sa plénitude de grâce, il l'a donnée à Marie. Et quand vous communiez, vous recevez toute cette vie qui sort de Jésus ressuscité, vous recueillez toute cette vie, cette plénitude de grâce qui sort de lui. Et du coup, vous recevez Marie, et vous pouvez donc redonner Marie sur la terre à Jésus ressuscité dans le ciel. Et ça nourrit Jésus ressuscité. Parce que ça réengendre Marie dans l'Église. Je suis le bon pasteur. Offrir Marie, grâce à la communion, à Jésus ressuscité. De manière que la vie de Marie se répande partout. Les sacrements sont féconds et efficaces. Ne l'oublions jamais. Je le fais et ça se réalise. Deuxième aspect, troisième aspect, chapitre 6, versets 33 à 46. On recule dans l'évangile, mais on avance dans ce moment. Versets 33 à 46. Je vous le lis. Ce chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean est complètement... complètement génial. Donc tout est génial de toute façon, moi j'ai fumé. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Au monde maintenant. La vie au monde maintenant, oui. C'est-à-dire que la vie éternelle, maintenant c'est la vie au monde. Je lui dis, alors Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Je lui ai répondu, je suis le pain de vie. Qui vient à moi n'aura jamais faim. Qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous me voyez et vous ne croyez pas. Tout ce que me donne le Père, tout ce que me donne le Père vient à moi. Et celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. La communion, c'est le contraire de l'excommunication. Après la communion, avant la communion, il y a des excommunications. Mais après la communion, il n'y a plus d'excommunication. C'est-à-dire que vous voyez, par exemple, on dit, je vous dis ça au passage, un excommunié, il faut qu'il aille à la messe. Quand sa père est venu à Reims, et qu'il a dit, mais les divorcés, mais ils ne sont pas du tout exclus de la communion. Ah, il n'a pas dit ça, hein. Il a dit, ils ne sont pas exclus de l'Eucharistie. Ils ne sont pas exclus de l'Eucharistie. Ils ne sont pas exclus du tout de l'Eucharistie. Ils doivent aller à la messe. Et ils doivent recevoir la communion, c'est-à-dire la res et sacramentum. Même s'ils ne peuvent pas recevoir la sacramentum et res, ils doivent recevoir la res et sacramentum. Ça veut dire qu'ils ne doivent pas communier matériellement, mais ils doivent recevoir la communion spirituellement. Et s'ils ne reçoivent pas la communion matériellement, alors ils peuvent recevoir la communion mystiquement, avec autant de fécondité que les autres, et même plus, parce qu'ils sont plus attentifs. Ils ont leur place dans l'Église. Mais comment? Avant la communion, il y a excommunication, on est exclu de la communion. Mais après la communion, il n'y a plus d'excommunication. C'est évident. Ce serait dramatique, hein, si la messe était le lieu de l'excommunication. Ce serait dingue. Ce serait affolant. Et regardez ce que dit Jésus. Tout ce que me donne le Père vient. Et celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors. Parce que je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé est que je ne perde aucun. Ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Oui, c'est la volonté de mon Père, la volonté du Papa, la volonté de Saint-Joseph, la volonté de Joseph à Noël, la volonté de Saint-Joseph pendant les... qu'elle était enceinte, la volonté de Saint-Joseph pendant les... Il lui porte le péché originel et deux autres non. C'est formidable. Ils sont tous les deux en fusion d'amour. Et lui, il porte le péché originel. Et donc, tous ceux qui ont péché originel avec lui. Et le papa, Saint-Joseph, il ne veut pas que ceux qui ont péché originel comme lui soient exclus. Il ne veut pas que ça, il n'est pas égoïste. Il veut que tous ceux qui sont comme lui, qui ont péché originel comme lui, Jésus et Marie n'ont pas péché originel. Et le papa, il veut que personne ne soit exclu de ceux qui sont pris par le péché originel. Et par ses conséquences. Volonté du papa, ça. Ah, merci, papa. Ça, on doit ça à mon papa, ça. C'est papa. Je suis content. Alors, on va la volonté de celui qui m'a envoyé, je ne perds. Oui, c'est la volonté de mon Père que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et que je le ressuscite au dernier jour. Les Juifs cependant murmuraient. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les goïmes, les pécheurs, les adultères. Ceux qui n'ont pas de vertu, ils participent à la sainteté du sacrement, sans communier matériellement et extérieurement. Qu'est-ce qu'il dit, Narigus? C'est extraordinaire. On comprend tout quand on est là. C'est génial, on commence à comprendre plein de choses. Vous voyez, le chapitre 6 de l'Évangile de Saint-Jean est charnière, hein, comme toujours. Tous les chapitres 6 sont charnières. Alors, vous voyez, c'est la volonté. C'est pour ça que l'Antichrist n'aime pas la charnière, il veut la bloquer. Hein, il veut bloquer les charnières. Hein. Si, ça y est, je bloque tout. C'est là-dessus que l'Antichrist va attaquer, hein. C'est pas sur le reste. Hein. Il va mettre toutes ses billes là-dessus, hein, l'Antichrist, sur la charnière, sur le 6e. Et tous les côtés, hein. Horizontalement, verticalement et profondément. Ça, c'est sûr. C'est une clé, ça. On touche une clé. D'ailleurs, 6e église, c'est Philadelphie, la clé de David. Tu prends Saint-Joseph, l'Antichrist, là. Il dégage. Et on le voit tout de suite. Ça dissipe comme la fumée. Le Seigneur nous révèle tout à travers le Papa. Mais que quiconque, à travers l'espérance, la redécouverte du Père dans notre corps, du Père lié à la chair humaine, du Papa Jésus. L'Eucharistie joue un rôle très très grand pour ça. Oui, c'est la volonté de mon Père. Alors, les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain descendu du ciel ». N'est-il pas, disait-il, ce Jésus, fils de Joseph? Ah, voyez, pas qu'il est là. Et donc, nous connaissons le papa et la maman, le père et la mère. Tu crois qu'ils le connaissent vraiment, ça, le papa et la maman? Je sais pas. Comment peut-il dire à présent « Je suis descendu du ciel » Jésus reprit, leur dit, ne murmurez pas. Ne murmurez pas. Écoutez. Entre vous. Ne murmurez pas. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'a dit. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés par Dieu lui-même. Ce tous est d'une très grande importance. Et il définit la fécondité suprême de la grâce catholique. Quiconque entend la doctrine du Père, et on reçoit l'instruction doctrinale, vient à moi. Hein, repérez ça, hein. Verset 45. Ouais, comme c'est important, c'est pour ça que ceux qui n'aiment pas le pape n'aiment pas la doctrine, du coup, ils n'aiment pas, ils ne peuvent pas sortir. Cette vivifiante lumière. Catholique, féconde. Non, que personne n'ait jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit à la vie. Vous voyez, donc ici, verset 33-46, je donne l'Eucharistie. Et dans l'Eucharistie, je reçois tous ceux qui sont attirés. moi, grâce à moi, en moi, dans l'attraction du Père sur eux. Le salut du monde, l'attraction du Père. Voilà ce que je vis à la communion dans un troisième moment. L'attraction du Père sur tous, les soifs, cachés ou non cachés, de tous les hommes, de tous les temps et de tous les lieux. Alors je peux dire avec le Christ, en toute vérité, qui est là en moi, assimilé à lui, je peux dire en toute vérité, je suis la lumière du monde. Et je deviens moi-même. Ce « je suis la lumière du monde » reste et sacramentum. Je deviens même un sacrement. Quatrième aspect de cette sixième demeure du sacrement de l'Eucharistie. Chapitre. Alors, évidemment, vous me trouvez que c'est trop mystique. Alors, puisque c'est trop mystique, il y a une manière plus simple de le dire en regardant l'aspect corporel, l'aspect physique, de la manière dont on peut le réaliser, qui est déjà pas mal. Le salut du monde, l'attraction du Père. Alors oui, quand je communie, je peux, à ce moment-là, c'est l'aspect de la spiritualité simple, je peux, quand j'ai l'Eucharistie, je suis en train de communier, je peux anticiper maintenant ma résurrection dans la résurrection du Christ. Parce que mon corps va ressusciter éternellement et engloutir toute la résurrection du Christ dans la lumière de gloire. Donc là, quand je suis en train de communier, je peux vivre par anticipation ma résurrection. Parce que quand je ressusciterai, j'engloutirai tous ceux qui sont sauvés dans ma propre résurrection. Donc, anticiper sa propre résurrection physiquement dans son corps actuel, dans la résurrection du Christ, c'est-à-dire dans l'omniprésence de la résurrection, je touche évidemment à ce moment-là. Parce que quand Christ ressuscite, et quand moi je ressusciterai, quand Christ est ressuscité, il est venu traverser et saisir quelque part tous les corps de tous les temps et de tous les lieux. Et quand je ressusciterai, moi aussi ce sera pareil. Quand je ressusciterai corporellement. Donc j'anticipe, alors c'est bien le salut du monde entier qui s'opère dans mon corps à moi. Le corps est imbécile. C'est fou. Anticiper sa résurrection. Voilà la spiritualité. Donc, quatrième aspect. Versets 26 à 32. Chapitre 6, toujours, de l'évangile de Saint Jean. En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, c'est pas parce qu'il y avait des belles photos avec des miracles dessus, hein. C'est pas parce qu'il fait des photos miraculeuses, hein. Mais parce que vous avez mangé du pain de tout votre soul. Travaillez, non pas pour la nourriture périssable, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle. Celle que vous donne le Fils de l'homme, parce que c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Il lui dit alors, mais que nous faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Qu'on pense à Dieu qui travaille en nous. L'œuvre de Dieu, leur répondit Jésus, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Ils lui dirent alors, quel signe vas-tu nous faire voir pour que nous te croyons, quelle œuvre vas-tu accomplir? Nos pères ont mangé la manne au désert, selon le mot de l'Écriture, il leur a donné à manger du pain venu du ciel. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, c'est mon Père qui vous le donne, le pain du ciel. Le vrai. Alors ça c'est beau aussi. maintenant, c'est sûr. Formidable, hein. Jésus avait multiplié les pains quelques heures avant. Hein. Il dit, ben, c'est génial, hein. On va voir Jésus. Oh. C'est génial, on va voir Jésus. Et il nous nourrit, puis il va me travailler. Donc vous venez me voir parce que vous dites pas, ben non, ça va, plus besoin de travailler. Mais si, 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 l'Eucharistie est un travail. Quand je communie, il y a tout un travail à faire. Voilà ce que dit Jésus ici, dans ces versets. Il y a tout un travail à faire. Et c'est Dieu, grâce à toi, qui va travailler. Il va travailler quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va faire un travail de recréation. Un travail impérissable. C'est les propres mots que nous avons vus. Travailler non pour la nourriture périssable. Un travail pour donner une nourriture impérissable. C'est un travail. Le travail, tu prends du blé, tu mélanges, tu mets au four, etc. Ça fait du pain. Formidable. Les boulangers pouvaient être au chômage. Enfin, on est en payé en plus. Non, il y a encore tout un travail à faire. C'est à la communion. C'est là qu'on se met au travail. Et ce travail est impérissable. Il est impérissable. Tout le travail que nous faisons au moment de la communion est impérissable. Indestructible. Éternel. Jésus n'y est plus, mais il y a le Verbe de Dieu, le Père, qui ouvre. Vous croyez que c'est le coup de la lance qui a ouvert? C'est pas la lance qui a ouvert dans le corps de Jésus cette plaie. Ne le croyez pas. C'est vrai, la lance en a été le signe. Et le cœur de Marie le prouve, parce qu'elle n'a pas été atteinte par la lance, et il y a eu le même résultat. Marque jusque dans le corps de la blessure du cœur de Jésus. Regardez Marthe. Regardez Sainte Thérèse d'Avila. Regardez Saint François de Sales, stigmatisé dans son cœur. Regardez Saint François d'Assise. Regardez Gemma, Sainte Gemma, Calcanille. Regardez. Moi j'en ai connu qui vivent encore. Il y en a plein. Vous voyez, en confession, il y en a plein. C'est le corps physique lui-même hein, qui est marqué. Ils ne vont pas le clamer sur les toits, hein. Ça c'est évident. Alors, ce travail de recréation impérissable, c'est que cette plaie est ouverte et que la porte du ciel est présente. C'est pour ça que je peux dire, quand je reçois l'Eucharistie, jusque dans mon cœur, et que mon cœur s'ouvre dans cette plaie, je peux dire, effectivement, je suis la porte. À chaque fois, Jésus dit « je suis » dans chapitre 6 à 11 de l'Évangile Saint-Jean. Il dit « je suis le Fils de Dieu, je suis le bon pasteur », nous l'avons vu en deuxième, « je suis la lumière du monde ». Il dit aussi « je suis la porte ». Mais il va dire après, je suis la résurrection. Il dit également, je suis. Et il dit également, je suis le pain de vie. Entre chapitre 6 et chapitre 11 de l'évangile de Saint Jean, Jésus dit, je suis, c'est la présence. Jésus dit, je suis, 33 fois, ego ei. Chapitre 6, c'est le seul passage où il dit je suis. Je suis. Chapitre 6 au chapitre 11, jusqu'à l'Eucharistie, quoi. Jusqu'à la scène. Eh bien, il dit 33 fois ego eimi. Mais quelquefois, il rajoute quelque chose. À un moment, il dit je suis tout seul. Ouais. Et puis sinon, il dit je suis le Fils de Dieu. Et puis il dit, je suis bon pasteur, etc. Il y a sept, je suis différent. Vous voyez? Mais certaines fois, par exemple, je suis le pain de vie, il le dit sept fois. Je suis la porte, il le dit plusieurs fois aussi. Au total, ça fait 33 fois. C'est beau ça, il y a toute une théologie à faire là-dessus. C'est les sept modalités de la présence du je suis, de Christ. Et c'est pour ça qu'on fait en fonction de ça. Eh bien, effectivement, je peux dire, je suis la porte du ciel, de l'éternité, ce travail qui s'est fait à partir de l'éternité qui a ouvert vers une transformation jusque dans le corps, c'est la blessure du cœur de Marie, c'est la blessure du cœur des chrétiens, c'est notre cœur qui saigne de cette blessure. Et ça, c'est un travail impérissable. Travailler pour un travail impérissable. Alors vous allez dire trop mystique ça. Alors si c'est trop mystique, il faut vivre ça de manière plus à notre niveau. Eh bien, quand je communie, il faut atteindre dans l'Eucharistie son centre, toucher la blessure du cœur de Jésus et offrir la blessure du cœur de Jésus pour y faire pénétrer tout ce qui existe. Offrir la blessure du cœur de Jésus en s'offrant avec elle. Et du coup, je deviens la blessure du cœur de Jésus, je suis la porte. Et il y a une transformation qui atteint les énergies de tous les corps et aussi l'actuation du Verbe de Dieu dans sa chair ressuscitée au ciel. Le sixième. Le cinquième aspect, et le dernier, chapitre 5, verset 19. J'aime le chiffre 19, hein. Vous allez croire que. Non, je suis repris donc la parole et leur dit en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, rien s'il ne le voit faire par son Père. C'est extraordinaire ça, hein. Ce que fait le Père, le Fils le fait pareillement. Essayez de comprendre ça. Oui. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé, mon Père, à la vie éternelle, il n'est pas soumis au jugement, il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est là, au ciel. Les morts entendent la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'entendent vivent. Et puis encore ceci, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit. Et elles sont vie. Et encore ce ceci. Il ajouta, voilà pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, sinon par un don du Père. Et enfin, Jésus reprit, ne vous ai-je pas choisi, vous ? Les douze. Pourtant, l'un de vous est un démon. L'éternité du bon Dieu dans le temps eucharistique. Et à la communion, c'est vous qui faites passer le temps, tout le temps, de l'Église dans l'éternité. Voilà les cinq choses que nous devons faire en communion avant que le sacrement disparaisse. Et après l'action de grâce, quand il a disparu, c'est l'oraison, c'est encore autre chose. Il faudrait faire ce travail que nous venons de faire, je sais pas, on le fera peut-être, je sais pas, je voyais, j'étais trop ambitieux, je voulais le faire pour les sept sacrements, vous voyez, j'étais... On pourra pas, hein. Je crois pas, bon. Mais vous voyez que c'est nécessaire. Et vivre ce sixième aspect du passage de la présence réelle de chaque sacrement, efficace et fécond éternellement. Et c'est pendant qu'on communie qu'on le fait. C'est pendant qu'on fait la pénitence pour le sacrement de confession. On a reçu l'absolution, ça correspond à la consécration. Et après, quand on fait pénitence, on fait passer. Il y a la présence réelle hein, du sacrement quand on fait pénitence. Une heure après. Présence réelle, hein. Attention. Hein. Et donc, il faut savoir comment on fait. Et pour le sacrement de mariage, pareil. Il y a aussi la présence réelle dans l'unité sponsale et qu'on célèbre de la célébration mutuelle en une seule chair dans le tabernacle glorieux de l'unité sponsale, en présence réelle du Christ et de l'Église. Et après, je reçois cette présence. Et je communie cette présence réelle. J'ai plus besoin de communier d'ailleurs à ma moitié sponsale à ce moment-là. Présence réelle, et il faut apprendre à donner cette fécondité. Quand je communie à la présence réelle qui a jailli de l'unité sponsale, de la célébration, de la messe sponsale, vous aviez un document très intéressant sur ce sujet. Il n'y en a plus, enfin débrouillez-vous. L'unité sponsale. Pour le sacrement de mariage, c'est très important. même si vous n'êtes pas marié. De même que vive la res et sacramentum, même si vous ne pouvez pas communier. Et de même pour la res et sacramentum du sacrement des prêtres, même si vous n'êtes pas ordonné prêtre. On doit tous vivre de ce passage de la res et sacrement, des sept sacrements, même si on n'a pas, touche pas corporellement et matériellement chacun de ces sacrements. Vous comprenez ça? Donc, au moins que vous sachiez ce principe, on pourra essayer de découvrir d'autres petits aspects. On essaiera, on va essayer de regarder, en tout cas entre nous, pour la confession, parce que ça c'est des sacrements qui sont quand même usuels chez nous, hein. Là, pour l'Eucharistie, je devrais continuer, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire encore sur ce sixième aspect, mais... Et pour le sacrement du prêtre, parce que le Vatican II demande qu'on vive, justement, du fruit et de la présence réelle du sacrement du prêtre, que ça Vatican II appelle sacerdoce royal. Et ça, c'est une des choses, je tiens à vous le dire, puisqu'on est ici, c'est une des choses principales que Marthe demandait qu'on enseigne dans les foyers de charité. Comment vivre du sacerdoce royal. Et ça, ça vient de la présence réelle des prêtres. Le pape, c'est un prêtre. Si je vis du pape, comment est-ce que je saisis la présence réelle du Christ prêtre éternel en lui? Comment est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec ça en moi? Quand je communie au Saint-Père. C'est très important de savoir le faire. Que je deviens moi-même le Saint-Père réellement, mystiquement. Par la grâce de la res sacramentum du sacrement de l'ordre. Et je deviens sacerdoce royal. C'est ce que Marie a fait. Jésus est prêtre éternel et est devenu aussitôt médiatrice de toute grâce. Jésus est prêtre. Et Marie, c'est la reine, médiatrice de toute grâce. Et donc il faut apprendre. Apprendre comment on fait des âmes de foi pour et d'espérance et d'amour pour que ça s'incarne en nous, ça, et que ça se réalise. Alors, du coup, quand dans l'Église on vivra ça, ça y est, le Christ reviendra. Et il va venir beaucoup plus vite que vous ne le pensez, parce que c'est pas la peine qu'on soit des millions, quelques-uns.